Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée du département d'éducation de l'Église pour les jeunes adultes. Elle est diffusée à partir du BYU Center sur le campus de l'Université Brigham Young Idaho à Harrisburg. Elle est traduite en de nombreuses langues pour les jeunes adultes en âge universitaire du monde entier. Je suis Edwin Sexton, président du 4e pieu de jeunes adultes seuls de Harrisburg. Nous souhaitons la bienvenue à Quentin L. Cook du Collège des Douze Apôtres et nous sommes reconnaissants que Sœur Cook l'accompagne ce soir. Nous présenterons plus tard Frère Cook, qui est l'orateur de ce soir. Nous saluons la présence d'autres autorités générales et 70 d'interrégions, de membres du Bureau de l'éducation de l'Église et de responsables de l'Université. En outre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur l'estrade des administrateurs du DE et des séminaires et instituts de religion, ainsi que des présidents de pieux représentant les jeunes adultes seuls des pieux d'Idaho Falls et des présidents des pieux de jeunes adultes seuls et d'étudiants mariés de Harrisburg avec leurs femmes. Nous vous rappelons que le 6 mai 2012, Marlene K. Jensen, des 70, sera l'orateur de la veillée du DE. Steven Stromberg a joué le prélude à l'orgue et accompagnera le cantique que chantera l'Assemblée. Nous demandons à l'Assemblée de chanter le cantique d'ouverture, Sauveur d'Israël, le cantique numéro 5, sous la direction de Daniel Johnson. Puis Taylor Briner fera la prière d'ouverture. Après la prière, le chœur regroupant le chœur d'hommes, le chœur de femmes et le Collegiate Singers de l'Université Brigham Young Idaho interprétera Version Cité Promise. Il sera dirigé par Randall Kempton et accompagné par Steven Stromberg.
Our dear Father in heaven,
notre Père céleste, nous te sommes très reconnaissants pour cette journée que nous avons pour nous réunir. Nous te remercions de cette occasion d'écouter un apôtre du Seigneur et nous demandons que ton Esprit porte son message dans le cœur de chacun. Père, nous sommes reconnaissants pour notre connaissance de l'Évangile. Nous te demandons de nous donner aujourd'hui des occasions dans tout ce que nous faisons de faire connaître ton Évangile aux personnes qui ont besoin d'être édifiées. Père, nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que tu nous donnes. Nous te demandons de bénir Frère Cook pendant son discours pour que nous soyons guidés par ton esprit et qu'il puisse donner le message que tu as préparé à cette intention. Père, nous t'aimons beaucoup. Nous te remercions pour toutes nos bénédictions et c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful
rendition. Frère Kempton, merci pour cette belle interprétation d'un cantique de l'Église très apprécié. Après le discours de Frère Cook, le chœur interprétera nos pas guidés par la foi. Il sera dirigé par Randall Kempton et accompagné par Stephen Stromberg. Ensuite, Dawn Davidson fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'orateur de ce soir. Quentin L. Cook a été soutenu comme membre du Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 6 octobre 2007. Appelé autorité générale en avril 1996, il a été membre du deuxième collège et du premier collège des 70, puis a été appelé à la présidence des 70 le 1er août 2007. Il a été précédemment membre de la présidence de l'interrégion des Philippines, président des interrégions d'Océanie et du Nord-Ouest de l'Amérique du Nord, ainsi que directeur exécutif du département missionnaire. Au moment de son appel comme autorité générale de l'Église, il était vice-président du réseau d'établissements de santé Sutter Health. Auparavant, il avait été président et directeur général d'un réseau d'établissements de santé de Californie. Avant cela, il était avocat d'affaires et associé chez Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson et Horn, cabinet d'avocats de la baie de San Francisco. Il a été membre du bureau de plusieurs associations à but lucratif et non lucratif. Né à Logan, en Utah, il a obtenu une licence en sciences politiques de l'Université de l'État d'Utah et un doctorat de droit de l'Université de Stanford. Il a été missionnaire à plein temps en Grande-Bretagne, évêque, président de pieux et conseiller dans la présidence du pieux de San Francisco, représentant régional et autorité interrégionale dans l'interrégion de l'Ouest de l'Amérique du Nord. Le 30 novembre 1962, il a épousé Mary Gaddy. Ils ont 3 enfants et 11 petits-enfants. Frère Cook.
Thank you for that,
merci pour cette présentation et merci de cette prière et de la merveilleuse interprétation du chœur. Cela m'a beaucoup touché. Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous, jeunes adultes. Je vous transmets l'amour et les salutations de la première présidence et du Collège des 12. C'est incroyable de se retrouver ici, dans le centre de conférence de l'Université Brigham Young Idaho. Je peux vous imaginer, vous qui êtes dans divers lieux partout dans le monde. Quand j'avais votre âge, David O. McKay était le prophète. Le président McKay était le président de l'Église de 1951 à 1970, l'année de mes 30 ans. Il y a toujours quelque chose de très spécial chez l'homme qui est prophète quand on est jeune adulte. J'aimais et j'admirais le président McKay. Il racontait souvent une histoire vraie qui s'est passée lorsqu'il était missionnaire en Écosse. Peu de temps après le début de sa mission, il avait le mal du pays et il passa quelques heures à visiter le château de Stirling qui se trouvait près de là. Lorsqu'ils sont rentrés de leur visite du château, son collègue et lui sont passés devant un bâtiment où une citation attribuée d'ordinaire à Shakespeare était gravée sur la pierre au-dessus de la porte et qui disait « Qui que tu sois, fais bien ce que tu dois ». Quand il raconta cette expérience lors d'un discours prononcé en 1957, le président McKay expliqua « Je me suis dit, ou l'Esprit en moi m'a dit, tu es membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Qui plus est, tu es ici un représentant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as accepté la responsabilité de représenter l'Église. Puis j'ai repensé à ce que nous avions fait ce matin-là. Nous avions fait du tourisme. Certes, nous avions été instruits, avions appris des choses sur l'histoire, et j'en étais ravi. Cependant, ce n'était pas de l'œuvre missionnaire. J'ai accepté le message qui m'était donné sur cette pierre. Et à partir de ce moment-là, nous avons essayé de faire ce que nous devions en tant que missionnaires en Écosse. Fin de citation. Ce message, qui que tu sois, fais bien ce que tu dois, fut si important et eut un tel impact sur Frère McKay qu'il fut une source d'inspiration pour le reste de sa vie. Il décida que, quelle que soit la responsabilité qu'il recevrait, il ferait de son mieux. Lorsque David B. Yates était pris en mission en Écosse, il retrouva la pierre originale qui portait l'inscription et en fit faire une réplique qui se trouve aujourd'hui au centre de formation des missionnaires de Provo en Utah. Beaucoup d'entre vous ont vu la citation et ont médité sur l'importance de son message. Récemment, Russell M. Nelson a réaffirmé ce message à l'occasion du cinquantenaire de l'ouverture du centre de formation des missionnaires. Quand je pense à qui vous êtes, j'ai le sentiment que vous ne vous rendez peut-être pas entièrement compte de l'importance de votre génération. En général, la société a étiqueté les différentes générations qui sont en vie aujourd'hui. Les plus âgés parmi nous, aux États-Unis et dans d'autres pays, ont reçu l'étiquette de la plus grande génération à cause de ce qu'ils ont souffert lors de la Grande Dépression mondiale des années 30 et de ce qu'ils ont accompli lors de la Seconde Guerre mondiale et par la suite en construisant un monde meilleur. Un certain nombre des frères les plus éminents de l'Église ont pris part à ces événements. Le président Monson était dans la marine des États-Unis. Le président Packer a servi dans l'armée de l'air des États-Unis. Frère Perry était fusilier marin des États-Unis. Je vous raconterai plus tard certaines expériences qu'ils vécurent et les leçons qu'ils apprirent et qu'ils enseignèrent. On dit actuellement de votre génération, qui est née entre les années 1980 et le début des années 90, qu'elle est la génération du millénaire. Certains observateurs sont sceptiques quant à ce que votre génération accomplira. Je pense que vous avez la formation et la fondation nécessaires pour être la meilleure génération de tous les temps, en particulier pour mettre en œuvre le plan Notre Père Céleste. Pourquoi est-ce que je dis cela? Votre génération a été davantage exposée aux enseignements du séminaire et de l'institut que les générations passées, et vous avez reçu une meilleure formation que toutes les autres générations à la primaire, à la prêtrise et aux jeunes filles. En outre, environ 375 000 d'entre vous ont fait une mission ou sont missionnaires. Vous représentez plus d'un tiers de tous les missionnaires qui ont servi dans cette dispensation. Samuel Smith, le premier missionnaire de cette dispensation, fut ordonné ancien et fut mis à part comme missionnaire le 6 avril 1830, jour de l'organisation de l'Église. Quand vous réfléchissez à tous les missionnaires qui ont servi depuis ce jour-là, c'est extraordinaire de voir qu'un tiers se trouve dans votre groupe d'âge. En comparaison, seulement 76 000 missionnaires, soit moins de 8 % ont rempli une mission lorsque j'avais entre 18 et 30 ans. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de remplir une mission, votre contribution peut néanmoins être considérable. Près de la moitié des membres de la première présidence et des 12 n'ont pas eu l'occasion de faire une mission. Au regard de votre énorme potentiel de faire le bien, quelles sont mes inquiétudes pour votre avenir? Quel conseil puis-je vous donner? Premièrement, chacun de vous subira une forte pression pour agir contrairement à sa personnalité et même pour porter un masque, pour devenir quelqu'un qui ne reflète pas vraiment qui il est et qui il veut devenir. L'été dernier, dans le cadre de nos responsabilités dans la communication, Elton Perry et moi-même, accompagnés de Michael Orterson, avons rencontré Abraham Foxman à son bureau de New York. Monsieur Foxman est le directeur national de la Ligue anti-diffamation. Sa mission est de mettre un terme à la diffamation du peuple juif. Cela fait près de 40 ans qu'il est impliqué dans cette œuvre. Le récit de ce qui l'a amené à ce poste est fascinant. Il est né au commencement de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, Joseph et Ellen Foxman, qui étaient sous la menace de décrets contre les Juifs, ont confié à Abraham une domestique polonaise et catholique juste avant d'entrer dans un ghetto juif à Vilna, en Lituanie, en septembre 1941. Abraham avait 13 mois. Ses parents ont survécu à la guerre et l'Holocauste, mais ils n'ont pas retrouvé Abraham avant son 4e anniversaire. On estime 1,5 million d'enfants juifs périrent dans l'enfer nazi. Abraham fut protégé par la jeune fille catholique qui l'amena à l'église tous les dimanches et qui dissimula son identité juive. Il n'est pas surprenant qu'Abraham Foxman ait consacré sa vie à combattre l'antisémitisme, la haine, le sectarisme et la discrimination. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec M. Foxman par le passé et j'admire son courage et son engagement. Quand nous l'avons rencontré à New York, je lui ai demandé quels conseils il pouvait nous donner avec notre responsabilité au sein de la communication pour l'Église. Il a réfléchi un moment et a ensuite expliqué l'importance de recommander aux gens de ne pas porter de masque. Il a décrit le Ku Klux Klan. C'était une organisation qui avait beaucoup d'influence et qui effrayait la plupart des Américains dans la première moitié du XXe siècle. Portant des robes et des masques identiques qui rendaient impossible l'identification des participants, ils brûlaient des croix sur le gazon des personnes qu'ils prenaient pour cible et se donnaient le titre de pseudo-chien de garde de la moralité. Parmi ceux qu'ils visaient le plus, il y avait les Afro-Américains, mais aussi les catholiques, les juifs et les immigrés. Les plus actifs d'entre eux étaient impliqués dans les flagellations, dans les violences physiques et même des meurtres. M. Foxman nous a dit que sous le régime des dictatures des années 1930 en Europe, une minorité des membres du Ku Klux Klan auraient été des brutes en chemise kaki. Mais sans les masques, la majorité d'entre eux étaient en général composée de gens normaux, notamment des hommes d'affaires, des personnes qui allaient à l'église. Il nous a fait remarquer qu'ils furent capables de participer à des activités qu'ils auraient normalement évitées en dissimulant leur activité, leur identité et en portant un masque. Leur comportement eut un impact terrible sur la société américaine. Le conseil de M. Foxman était de mettre l'accent sur l'importance d'éviter de porter des masques qui cachent la véritable identité. Dans les premiers temps de l'Église, le prophète Joseph, Emma et leurs jumeaux âgés de 11 mois, Joseph et Julia, se trouvaient à Hiram, en Ohio, dans la ferme de la famille Johnson. Les enfants souffraient tous deux de la rougeole. Joseph et son fils dormaient à un lit, un étage, près de la porte d'entrée. Frère Staker a raconté ce qui s'est passé. Pendant la nuit, des hommes au visage recouvert de peinture noire sont entrés violemment et ont entré le prophète dehors, où ils l'ont battu et recouvert de goudron avec Sidney Rigdon. Quand Emma a vu Joseph battu et recouvert de goudron, elle s'est évanouie. Bien que le prophète eût perdu une dent, qu'il souffrit d'une blessure grave au côté, qu'il lui manquât une touffe de cheveux et qu'il eût été brûlé avec de l'acide nitrique, il prêcha un sermon lors du service de culte dominical habituel. Parmi les cinq qui s'assemblèrent, on compta au moins quatre des assaillants. Ce qu'il y a de plus tragique dans cette histoire est que le petit Joseph fut exposé à l'air de la nuit quand on traîna son père à l'extérieur et il prit gravement froid et en mourut quelques jours plus tard. Il est aussi intéressant de voir que les gens qui participèrent au martyre du prophète Joseph et de son frère Hiram s'étaient peints le visage pour cacher leur véritable identité. Les gens qui camouflent leur identité et participent à des combinaisons secrètes sont un sujet tout particulier d'inquiétude. Nous apprenons dans le livre de Mormon que Lucifer incite les enfants des hommes aux combinaisons secrètes de meurtre et à toutes sortes d'œuvres secrètes de ténèbres. Je ne suis pas en train de suggérer que vous êtes impliqué dans ce genre d'événements terribles que je viens de décrire. Je crois que de nos jours, alors qu'il est plus facile qu'avant de rester anonyme, il y a des principes importants inhérents au fait de ne pas porter de masque et d'être bien ancré dans la foi de ces martyrs, nos frères. Une de vos plus grandes protections contre les mauvais choix est de ne pas porter le masque de l'anonymat. Si vous vous surprenez à vouloir le faire, sachez que c'est un signal d'alarme réel et un des outils de l'adversaire pour vous amener à faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Nous conseillons aux missionnaires de s'habiller de manière classique et aux anciens d'être bien rasés en partie, afin qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité et sur la façon dont ils devraient agir. Certains poseront la question, n'est-ce pas juste superficiel? Je ne crois pas. Pensez à la description de la tenue vestimentaire et des ornements que fait le prophète Moroni, qui assimila l'orgueil au port de très beaux habits, dans le livre de Mormon. Il associa l'orgueil qui se manifestait par le port de très beaux habits aux discordes, à la malice, aux persécutions et à toutes sortes d'iniquités. Je suis particulièrement inquiet de voir que, de nos jours, notre tenue vestimentaire et nos ornements peuvent être le signe d'une rébellion ou d'un manque d'adhésion à des principes moraux et peuvent avoir une influence négative sur les principes moraux des autres. Le deuxième conseil que je donnerai est celui-ci. Agissez conformément à ce que vous croyez véritablement, en passant votre temps à faire des choses qui édifieront et développeront votre personnalité et vous aideront à devenir plus sensible au Christ. J'espère qu'aucun de vous ne conçoit la vie comme n'étant essentiellement que rire et amusement, mais comme étant un temps pour nous préparer à rencontrer Dieu. Un incident de la vie d'Elton Perry, lorsqu'il servait dans l'infanterie de marine et faisait partie des forces américaines d'occupation au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, illustre merveilleusement ce qu'est faire son devoir et utiliser son temps de façon appropriée. Frère Perry a raconté cette expérience à l'occasion de l'enregistrement de son témoignage spécial du Sauveur qui est diffusé dans nos centres de visiteurs. Écoutons son récit.
J'ai vécu une expérience qui me rappelle souvent la joie qui découle de la question « Que ferait le Sauveur dans cette situation ?» Je faisais partie de la première vague de fusiliers marins à débarquer au Japon après le traité de paix qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes entrés dans la ville dévastée de Nagasaki et ce fut une des plus tristes expériences de ma vie. Une grande partie de la ville avait été totalement détruite. Certains des morts n'avaient pas encore été enterrés. En tant que troupe d'occupation, nous avons établi nos quartiers et nous nous sommes mis au travail. La situation était lugubre et quelques-uns d'entre nous ont voulu faire un peu plus. Nous sommes allés voir notre aumônier pour obtenir la permission d'aider à la reconstruction des églises chrétiennes. En raison des restrictions gouvernementales pendant la guerre, elles avaient presque cessé toute activité. Les rares bâtiments étaient très endommagés. Avec un groupe de volontaires, nous sommes allés réparer et replâtrer ces églises durant notre temps libre, afin qu'elles soient en mesure d'abriter à nouveau les services religieux. Nous ne parlions pas la langue du pays. Tout ce que nous pouvions faire était le travail physique des réparations. Nous sommes allés voir les ministres des cultes qui avaient été empêchés de servir pendant toutes ces années de guerre, et nous les avons encouragés à retourner à leur chair. Nous avons vécu une expérience merveilleuse avec ces personnes quand elles ont retrouvé la liberté de pratiquer leur foi chrétienne. Lorsque nous avons quitté Nagasaki pour rentrer chez nous, il s'est produit un événement que je n'oublierai jamais. Au moment où nous montions dans le train qui nous emmenait vers notre bateau de rapatriement, beaucoup de nos camarades nous ont taquinés. Leur compagne du moment leur disait au revoir. Ils riaient de nous en disant que nous avions laissé échapper le bon côté de notre séjour au Japon et que nous n'avions fait que gaspiller notre temps à réparer et à plâtrer des murs. Leur raillerie atteignait leur paroxysme quand, débouchant de derrière une petite colline près de la gare, environ 200 de ces chrétiens japonais dont nous avions réparé les églises sont apparus, chantant « La lutte suprême ». Ils sont descendus et nous ont couverts de cadeaux. Puis ils se sont alignés le long de la voie ferrée et, comme le train démarrait, nous avons tendu la main pour toucher leurs doigts. Nous étions sans voix, tant notre émotion était forte. Mais nous étions reconnaissants d'avoir pu aider, si peu que ce soit, à rétablir le christianisme dans un pays après la guerre. Je sais que Dieu vit. Je sais que nous sommes tous ses enfants et qu'il nous aime. Je sais qu'il a envoyé son Fils dans le monde comme sacrifice expiatoire pour toute l'humanité. Et les personnes qui acceptent son évangile et le suivent auront la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Je sais qu'il a dirigé le rétablissement de l'Évangile sur la terre par le ministère de Joseph Smith, le prophète. Je sais que la seule joie et le seul bonheur durable que nous pourrons jamais trouver pendant notre vie terrestre, c'est en suivant le Sauveur, en obéissant à sa loi et en respectant ses commandements que nous les connaîtrons. Il vit. Je vous en témoigne en son saint nom. Jésus-Christ. Amen.
Pensez à l'importance qu'ont eu quelques soldats qui ont passé leur temps à restaurer des églises chrétiennes en comparaison d'autres soldats qui s'adonnaient des activités mauvaises, stupides et frivoles. Je vous prie de méditer et d'être proactif pour choisir comment vous utilisez votre temps. En regardant cette vidéo, je me rappelle un de mes plus anciens souvenirs. J'avais alors 5 ans. Le père de frère Perry était notre président de pieu. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fait asseoir sur l'estrade pendant la réunion de Sainte-Seine tous les soldats qui étaient rentrés. Ils sont venus dans leur plus bel uniforme militaire et chacun a rendu un court témoignage. Le président Perry a pleuré lorsque ses deux fils, frère Perry et son frère cadet Ted, ont rendu leur témoignage. Cela a été très inspirant et très impressionnant pour le jeune garçon que j'étais. Je ne me souviens pas de ce qu'ils ont dit, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple de frère Perry sur cette vidéo, je ne suis pas en train de dire que vous devez porter votre religion sur vos manches ou que vous devez être fidèle de façon superficielle. Cela peut être gênant pour vous et pour l'Église. Je dis que vous devez devenir ce que vous devez être. Alors que nous étions en train de travailler sur le guide missionnaire « Prêcher mon évangile », nous avons senti qu'il pourrait être utile pour guider nos missionnaires et nos membres tout au long de leur vie, en particulier le chapitre 6, « Acquérir des vertus chrétiennes ». À mesure que vous essayez de faire ce que vous devez et d'identifier les vertus que vous souhaitez acquérir, faites la liste, étudiez les passages d'Écriture qui parlent de ces vertus. Fixez-vous des buts et faites des plans pour appliquer les vertus à votre vie. Et priez pour que le Seigneur vous aide à acquérir ces vertus. En faisant cela, vous ne devez pas porter un masque et cacher votre véritable identité. Il se peut que certains d'entre vous aient pris des habitudes qui vont bien au-delà des simples jeux et de l'amusement. Ceux qui s'adonnent à la pornographie ou à toute autre forme d'immoralité jouent un rôle différent de ce qu'ils veulent vraiment être ou de ce qu'ils devraient être. Il est intéressant de voir que presque tous les gens qui s'adonnent à la pornographie prennent une fausse identité et cachent leur participation. Ils masquent leur comportement car ils savent que celui-ci est répréhensible et destructeur pour tous ceux qu'ils aiment. La pornographie est une plaie qui non seulement nuit aux valeurs morales d'une personne vis-à-vis de Dieu, mais qui peut aussi détruire des mariages et des familles et a un impact négatif sur la société. La dépendance à Internet et à la pornographie nuisent tous deux au mariage. À mesure que vous vous rapprochez du mariage, vous ne devez pas porter de masque qui couvre des comportements inconvenants qui seront néfastes pour vous ou votre mariage. Vous qui avez succombé à cette habitude destructrice, soyez certain que vous pouvez vous repentir et que vous pouvez être guéri. Le repentir devra précéder la guérison. Cette dernière peut être un long processus. Votre évêque peut vous conseiller pour que vous sachiez comment recevoir l'aide dont vous avez besoin pour être guéri. Nous avons demandé aux évêques de vous envoyer vers des gens qui peuvent le mieux vous aider. À côté de la pornographie, de l'immoralité sexuelle, il y a d'autres comportements insidieux qui empoisonnent la société, qui sapent la moralité de base. Aujourd'hui, il est courant de cacher son identité lorsqu'on écrit de façon anonyme des commentaires sectaires, acerbes et haineux en ligne. Certains appellent cela une campagne d'insultes. Certaines institutions tentent de filtrer les commentaires. Par exemple, le New York Times ne tolère pas les commentaires qui contiennent des attaques personnelles, des obscénités, des vulgarités, des blasphèmes, des usurpations, des incohérences et des disputes. Le Times recommande aussi l'utilisation des vrais noms parce que, je cite, « Nous avons découvert que les personnes qui utilisent leurs vrais noms discutent avec plus de respect et plus d'engagement. » Fin de citation. L'apôtre Paul écrit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. » Il est clair qu'en ce qui concerne les mauvaises compagnies, ce n'est pas juste une question de mauvaise manière, mais si les saints des derniers jours s'y associent, elles peuvent avoir un effet négatif sur les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu ou un témoignage du Sauveur. Toute utilisation d'Internet dans le but de maltraiter, de détruire une réputation ou de montrer quelqu'un sous un mauvais jour est condamnable. Ce que nous observons dans la société est que lorsqu'ils se cachent derrière le masque de l'anonymat, les gens sont plus enclins à se livrer à ce genre de comportement qui nuit tant à la civilité. Cela enfreint aussi les principes de base que le Sauveur enseigna. Un des messages fondamentaux de l'Évangile de Jésus-Christ qui vous a été enseigné depuis votre jeunesse est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Sauveur expliqua qu'il n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il décrit ensuite ce qu'est la condamnation. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Les justes n'ont pas besoin de cacher leur identité derrière des masques. J'aime le récit véridique tiré de la vie du président Monson. Il a eu 18 ans vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. En vérité, la guerre en Europe était finie, mais la guerre dans le Pacifique se poursuivait. Il s'engagea dans la marine des États-Unis et fut envoyé à San Diego, en Californie. Vous vous souviendrez de l'histoire qu'il a racontée lors de la dernière conférence générale. Son premier dimanche, le quartier maître les mit tous au garde-à-vous pour aller à l'église. Il envoyait les catholiques à un endroit, les juifs à un autre, et essaya d'envoyer le reste à un service protestant. Le président Monson déclara qu'il savait qu'il n'était ni catholique, ni juif, ni protestant. Il était mormon. Il eut le courage de ne pas bouger et fut content de découvrir qu'il y avait d'autres membres fidèles debout derrière lui. Il aurait été facile de suivre le groupe nombreux de protestants. Il était fermement décidé à être identifié pour ce qu'il était et à faire ce qu'il devait faire en conséquence. Mon troisième conseil porte sur certains objectifs que vous devriez envisager. À peu près au même moment où frère Perry se trouvait au Japon avec l'infanterie de marine, Boyd K. Packer servait au Japon dans l'armée de l'air à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le discours qu'il a prononcé le 22 janvier dernier, à l'occasion du centenaire du séminaire, il a expliqué que cette période fut très formatrice. En 2004, j'ai accompagné le président Packer et d'autres au Japon. Il a eu l'occasion de revenir un peu sur ses pas et de réfléchir à certaines expériences et à certaines décisions qu'il avait prises à cette époque-là. Il en a mentionné quelques-unes lors de son discours sur le séminaire. Avec sa permission, je vais vous parler d'autres de ses réflexions et sentiments. Le président Packer a raconté les expériences qui se sont passées sur une île près de la côte d'Okinawa. Pour lui, elle représente sa montagne dans le désert. Sa préparation personnelle et sa rencontre avec d'autres membres avaient renforcé sa foi dans les enseignements de l'Évangile. Il lui manquait cependant une confirmation, une connaissance certaine de ce qu'il avait déjà ressenti comme étant vrai. Le biographe du président Packer évoque ensuite ce qui se produisit, je cite, « Contrairement à la confirmation sereine qu'il recherchait, il se retrouva des années avec l'enfer de la guerre contre les innocents. Un jour, alors qu'il cherchait à être seul et avoir un moment pour réfléchir, il escalada une butte qui surplombait l'océan. Il y trouva les vestiges d'une chaumière de paysan avec son champ de patates douces laissé à l'abandon. Et couché au milieu de la végétation mourante, il vit les corps d'une mère et de ses deux enfants massacrés. Cette vision le remplit d'une tristesse profonde, mêlée à des sentiments d'amour pour sa propre famille et pour toutes les familles. » Fin de citation. Par la suite, il entra dans un bunker de fortune où il réfléchit, médita et pria. En repensant à ces événements, le président Packer a décrit ce que j'appellerais une expérience spirituelle de confirmation. Il a reçu l'inspiration pour ce qu'il devait faire dans sa vie. Bien entendu, il n'avait pas idée qu'il serait appelé à remplir l'office sacré élevé qu'il détient maintenant. Dans sa vision, il voulait devenir enseignant et mettre l'accent sur les enseignements du Sauveur. Il décida qu'il mènerait une vie juste. Il comprit profondément qu'il devrait trouver une femme juste et qu'ensemble, ils élèveraient une famille nombreuse. Ce jeune soldat a reconnu que son choix de carrière n'apporterait qu'un revenu modeste et que sa femme devrait embrasser les mêmes priorités et être prête à vivre sans certaines choses matérielles. Certains d'entre vous qui ont rencontré Sœur Donna Packer savent qu'elle fut et est la compagne idéale pour le président Packer. Ils n'ont jamais eu d'excédent d'argent, mais ils n'ont pas eu l'impression d'être démunis. Ils ont élevé 10 enfants, ce qui a exigé des sacrifices. Ils ont aujourd'hui 60 petits-enfants et 79 arrière-petits-enfants. Je me souviens de mon émotion quand j'ai appris qu'il s'est senti gêné de se rendre à une réunion de dirigeants de l'Église avec l'un des frères plus anciens, après avoir reçu l'appel d'autorité générale parce qu'il n'avait pas de chemise blanche adéquate à porter. Je vous raconte ce récit véridique parce que nos buts sont trop souvent portés vers ce à quoi le monde accorde de la valeur. Ce qui compte pour les membres qui ont reçu les ordonnances salvatrices est vraiment très simple. Être juste. Élever une famille. Trouver un moyen convenable de subvenir à ses besoins. Servir lorsqu'on est appelé. Se préparer à rencontrer Dieu. Le Seigneur enseigne que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il utilise ensuite une parabole que l'on retrouve dans Luc. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonna en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai du plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Outre les attributs, les qualités et les décisions personnelles, pour devenir la génération que vous devez être, vous devez édifier votre pays et la collectivité où vous vivez. Tout comme la plus grande génération, votre génération devra défendre la justice et la liberté religieuse. Le patrimoine judéo-chrétien dont nous avons hérité est non seulement précieux, mais il est aussi essentiel au plan de notre Père Céleste. Nous devons le préserver pour les générations à venir. Nous devons nous associer aux gens de bien, y compris ceux de toutes les religions, et en particulier ceux qui se croient responsables devant Dieu de leur comportement. Ce sont des gens qui comprendraient pourquoi nous parlons ce soir de « Qui que tu sois, fais bien ce que tu dois ». Si vous réussissez à améliorer les idéaux judéo-chrétiens, la liberté religieuse, vous deviendrez la grande génération que vous devez être. Avec les épreuves qui existent dans le monde aujourd'hui, la première présidence et le Collège des Douze s'intéressent particulièrement à votre participation convenable à la politique du pays où vous vivez. L'Église reste neutre dans les débats politiques et ne soutient aucun candidat ni aucun parti. Cependant, nous attendons de nos membres qu'ils s'engagent complètement à soutenir les candidats et les partis de leur choix en fonction des principes qui assureront un bon gouvernement. Notre doctrine est claire. Les gens qui sont honnêtes et pleins de sagesse doivent être cherchés diligemment. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Cela veut dire que tous devraient se sentir obligés de voter. Aux États-Unis, dans les États où des élections primaires sont organisées, vous devriez suivre les débats des candidats et participer pleinement. Par exemple, en Utah et en Idaho, les assemblées des citoyens pour le Parti républicain auront lieu le 6 mars et le 14 mars pour le Parti démocrate. Si vous y assistez, vous aurez le droit de voter. Nous espérons que vous rechercherez la date de l'assemblée des citoyens de votre choix et que vous vous ressentirez le devoir d'y assister. Nous espérons que cela sera le cas pour tous les citoyens, membres et non-membres, dans tous les pays où des élections vont avoir lieu. Le prix de la liberté a été trop élevé et les conséquences de l'abstention sont trop importantes pour que les citoyens pensent qu'ils peuvent se désintéresser de leurs responsabilités. Sachez que nous avons une grande confiance en vous. Les dirigeants de l'Église pensent sincèrement que votre génération peut édifier le royaume comme aucune autre ne l'a fait. Nous vous donnons non seulement notre amour et notre confiance, mais aussi nos prières et nos bénédictions. Nous savons que la réussite de votre génération est essentielle à l'édification de l'Église et à la croissance du royaume. Nous prions pour que vous puissiez faire ce que vous devez. En évitant de porter un masque, agissez conformément à votre véritable identité. Fixez-vous des buts et édifiez le pays et la collectivité où vous vivez. Je conclus par mon témoignage personnel du rétablissement de l'Évangile par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Joseph Smith a vraiment vu Dieu le Père et Jésus-Christ. Notre Père céleste est un Père aimant qui a un plan qui bénit chacun de ses enfants. Jésus-Christ est notre Sauveur et son expiation est l'événement majeur de toute l'histoire. Le Saint-Esprit remplit son ministère auprès de nous et rend témoignage du Père et du Fils. Je témoigne de ces choses en ma qualité de témoin spécial du Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
My father's work has begun to come.
Notre très cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants de l'occasion que nous avons eue ce soir de nous réunir pour cette veillée afin d'être instruits par ton apôtre, Frère Cook. Nous te demandons de rester avec nous pour que nous nous souvenions des paroles prononcées ce soir, de l'esprit qu'on a ressenti et que nous puissions les garder en nous, afin que nous puissions suivre et mettre en pratique les conseils qui nous ont été donnés. Nous te demandons de nous bénir pour que nous soyons des exemples pour le monde et notre entourage. Nous te remercions pour tout, nous t'aimons. C'est notre humble prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Thank you.